Ben, c'est l'heure de notre panel citoyen. On a eu Québec solidaire qui s'est présenté ici devant avec son candidat, hein, Vincent Marissal. Et la semaine passée, c'était Sonia Lebel pour la CAQ. Alors, cette semaine, c'est le tour du Parti québécois. La semaine prochaine, ce sera le tour du Parti libéral. D'ailleurs, si vous avez des questions pour... on ne sait pas encore si ça va être un ou une candidate du Parti libéral. Vous pouvez nous les envoyer à Drainville, à commercial 985fm.ca. On a encore peut-être une place sur notre panel là, pour une bonne question ou deux bonnes questions. Fait que gênez-vous pas. Mais d'abord, donc aujourd'hui, on reçoit en studio donc le docteur, parce qu'il est docteur, Éric Tremblay, donc qui est candidat pour le Parti québécois dans Repentigny. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Tremblay. Et les trois citoyens ci-devant réunis pour poser des questions. Il y a d'abord M. Pelletier, Alain Pelletier, qui est retraité, résident de Repentigny. Oh, ça, c'est intéressant. Vous avez peut-être un vote à aller chercher, M. Tremblay, ici. Bonjour, M. Pelletier.
Oui, bonjour, M. Drainville.
Content de vous avoir en studio. On a également M. Lincourt qui est avec nous, Michel Lincourt. Donc, lui, il habite dans Hochelaga-Maisonneuve. Bonjour, Michel Lincourt.
Bonjour.
Et on a Théo Boucher. Théo, qui a 22 ans, qui est étudiant à l'UQAM en communication. Théo, bonjour.
Bonjour, bonjour.
On va y aller gaiement. M. Pelletier, vous allez poser la première question.
Oui, la première des choses, je tiens à remercier Cogeco Média pour cette invitation.
Très bien.
Alors, bonjour M. Drainville, puis bonjour Dr. Tremblay.
Monsieur Petit.
Or, ma question se porte au niveau de la santé. Une question à deux volets. Dans le cadre financier, le PQ a indiqué qu'il puiserait dans la poche des médecins. Rappelons que votre association a dénoncé la hausse prévue pour les médecins en privilégiant un réinvestissement dans les soins pour les patients. Donc, est-ce que vous avez été inspiré ou hypnotisé par Pierre-Yves McSween? En as-tu vraiment besoin?
Oui, l'association dont vous parlez, en fait, c'est qu'il faut dire, le docteur Tremblay fait partie de ce petit groupe de médecins qui était contre, en fait, le versement de cette rémunération importante. Là. Il s'en serait bien passé. Il va nous expliquer ça dans un instant. Vous aviez dit en deux temps, donc?
Oui, mais en fait, ma deuxième question... De plus, vous avez mentionné que vous donnerez davantage de pouvoir aux 200 000 professionnels du réseau de la santé qui veulent en faire plus.
Voilà.
Est-ce que je rêve ou non?
Très bien.
Que quelqu'un me pince.
OK.
Expliquez-nous cela, ce que vous comptez faire.
Okay. Très bien. Question en deux temps, ouais, M. Tremblay.
Donc, pour la première question, en a-t-on vraiment besoin des augmentations prévues? La réponse est non. C'est assez clair.
Comment ça s'appelle l'association?
Moi, j'étais vice-président des médecins québécois pour un régime public.
Puis eux autres, ils se sont prononcés contre
l'augmentation. Ça depuis 2015, hein, parce que les augmentations sont en place depuis 2006.
Ouais.
Déjà, on parle de plusieurs milliards de dollars.
Ouais.
Si les gens, si on veut donner une idée aux gens, qu'est-ce que c'est 2 milliards de dollars? T'sais, on a parlé récemment de mettre en place un système pour payer la psychologie mm-hmm. aux Québécois,
hein, oui.
de donner accès. Là. Maintenant, c'est presque tout privé, la psychologie. Donc, on a voulu rendre ça au public. Un programme national dans lequel on prévoit investir 35 millions.
Hey boy.
Donc, des milliards de dollars, c'est des grosses sommes. On fait beaucoup d'argent avec ça.
On pourrait faire beaucoup de choses avec ces 2
milliards.
On fait
beaucoup de choses avec ça. Donc, nous, juste pour corriger, je veux pas, M. Pelletier, on va pas chercher l'argent dans la poche des médecins. On parle d'un gel de salaire, hein, de gel de la rémunération des médecins, parce que ce qui est prévu pour les 10 prochaines années, c'est 7 milliards de plus pour les médecins spécialistes.
Okay.
Ce serait 4 milliards de plus dans le prochain mandat d'un gouvernement, du prochain gouvernement. Donc, nous, on dit, ça, ces sommes-là, on ne veut pas les donner. Il n'y en est pas question. Elles doivent être affectées à d'autres missions. Donc, on a parlé d'embaucher. Il y a une urgence hein, dans le système de la santé en ce moment. Moi, j'étais à l'hôpital Pierre-Legardeur hier, où les membres de la FIC, hein, les travailleurs, les travailleuses de la FIC, ont rencontré la direction pour leur faire part de l'état d'esprit des troupes.
Hein, ça, c'est les infirmières, beaucoup, les inhalothérapeutes et
ouais,
tout le reste.
C'est ça, des auxiliaires et puis tout ça. Et puis, ils sont à bout. Hein, vraiment, là, c'était assez inquiétant d'entendre ces femmes-là, quelques hommes aussi dans le lot, là, décrire leur état d'esprit.
Ils sont épuisés.
Ils sont épuisés. Hein, on sait que le recours à l'assurance salaire, l'assurance au congé de maladie dans le réseau de la santé a augmenté de 25 % dans les dernières années. Il y a une très faible rétention de poste. On parle d'environ 50 % là-bas. Le directeur s'est exprimé assez clairement.
Donc, il y a une partie de l'argent
On veut directement.
Que vous ne verseriez pas aux médecins là, pour ça. La hausse de salaire, c'est que ça. Vous garderiez, mettons, pour embaucher plus d'infirmières ou leur donner des meilleures conditions pour attirer des jeunes dans la profession. Parce que je peux vous dire en affaire, vous avez vu ça passer, là, dans plusieurs cégeps où il y a un programme de soins infirmiers, les inscriptions sont très, très basses. Absolument. Parce que les jeunes entendent toutes les histoires d'horreur sur le réseau de la santé puis ils n'ont pas le goût d'aller y travailler.
Absolument. Donc ça, il y a un réel besoin, une réelle urgence. Donc ces sommes-là, puis tout le monde le sait, les médecins le savent. Hein? Quand j'étais chez les médecins québécois pour un régime public, on a mis en ligne une pétition pour demander le gel du salaire, demander exactement ce dont on parle en ce moment.
Très bien.
1000 médecins l'ont signé.
Ouais.
C'est quand même. Hein?
1000 sur 21 000.
Oui, c'est ça. Mais c'est, okay. C'est pas tout le monde qui signe des pétitions, comme vous le savez.
Très bien. Courte relance, M. Pelletier. Courte. Ou est-ce que vous avez eu réponse à votre
question? Non, j'ai eu réponse.
C'est bon?
Oui, c'est bon. Très bien.
Très bien. Bon, on va passer à Michel Lincourt.
Bonjour.
M. Lincourt, vous allez y aller sur quel thème, vous? Parce que vous m'avez fourni tellement de questions, toutes intéressantes d'ailleurs.
Ben oui, ben merci.
Approchez-vous un petit peu du microphone.
Oui, bonjour, M. Drainville.
Ben oui, allez-y.
Merci
allez-y.
Beaucoup. Puis, d'abord, j'aimerais exprimer ma satisfaction de voir Dr. Tremblay. Il est très intéressant d'avoir des gens de votre valeur qui se présentent en politique. Je pense que nous avons besoin de gens de valeur. Là.
Tout parti confondu, on s'entend là-dessus.
Tout parti confondu.
Absolument, absolument.
Bon. J'aimerais vous parler du climat. Il y a un consensus planétaire actuellement que l'humanité se dirige à pas de course là vers un désastre insensé. Ah, et moi, je trouve que les partis politiques dans cette campagne et les candidats sont plutôt désinvoltes face à ça. Et on en parle un petit peu comme si c'était peut-être important, peut-être pas. Quel est votre point de vue là-dessus?
Très bon.
Ben, vous avez raison. C'est les gens sérieux, les gens de science, nous disent depuis plusieurs années là, qu'on fait face à une crise. Et puis moi, je ne veux pas vous contredire, mais je suis d'avis que le Parti québécois, on prend ça très au sérieux. Hein?
Et puis, on a eu l'impression que Québec solidaire prenait ça plus au sérieux que vous dans cette campagne-là. Peut-être parce qu'ils sont sortis plus rapidement que vous sur la question de l'environnement, là, avec leur plan pour retirer les voitures à essence dès 2030 et tout le reste.
Oui, il y a des détails dans ce sens-là, mais vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. Hein. Vous savez qu'il y a un groupe des écologistes, des associations écologistes, Greenpeace, Équiterre, la Fondation Suzuki, plusieurs autres, qui ont produit un rapport, qui ont regardé les programmes des quatre partis, qu'ils ont évalués, puis qui ont, selon 23 critères, et qui ont dit est-ce qu'ils répondaient à l'urgence, à la crise dont vous parlez, qui est une crise réelle. Et puis, les notes obtenues par le Parti québécois et Québec solidaire sont excellentes. Hein? La CAQ frôle le zéro absolu. Le Parti libéral du Québec a une note plutôt médiocre parce qu'il a beaucoup tergiversé au cours des dernières années. Mm-hmm. On a vu récemment dans les journaux, ce matin même, que la gestion du fonds vert a été déficiente. Donc, une note médiocre pour le Parti libéral du Québec, mais des très bonnes notes pour Québec solidaire et le Parti québécois. Nous, on vise d'améliorer l'offre
deux,
de transport en commun. On sait qu'à peu près 50 % des gaz à effet de serre proviennent des voitures, hein, du transport. Donc, on veut améliorer le transport en commun dans la région métropolitaine en particulier, là, avec le grand déblocage. Moi, dans Repentigny, ça veut dire bonifier beaucoup plus de voyages du train de l'Est, l'envoyer jusqu'à Joliette. En tout cas, le plan est assez ambitieux.
Mais là, vous allez faire quoi avec le REM? Là? Le REM, la construction a commencé. Là. Ouais. Vous allez arrêter la construction. Puis
ouais,
vous allez...
on va. La construction a commencé dans le coin de Brossard.
Je parle du REM. Là,
du REM, ouais. Exactement. Ouais. Donc, il y a un tronçon qu'on conserve. Le tronçon qui va de Brossard au centre-ville, ça, c'est quelque chose qui est conservé dans nos plans. Et puis, on n'est pas rendu là du tout. Donc, on ne va pas arrêter de travaux.
Mais moi, ce que je constate, c'est que les élus à l'Assemblée nationale, par exemple, au Parlement du Canada, c'est pareil, ils sont un peu assis sur leur pouce. Là. Ils font pas grand-chose. Il n'y a pas d'initiative qui est prise d'engager de véritables débats publics pour engager de véritables mesures touchant tous les aspects là, de la pollution, le surpackaging.
Michel, vous trouvez, dans le fond, qu'il y a une espèce de décalage, ou sinon un grand décalage, entre l'urgence d'un côté et la classe politique qui n'a pas l'air à prendre en compte l'urgence.
Voilà.
Mais il y a beaucoup de mesures incitatives. On veut accompagner les commerçants, les consommateurs, encourager ceux, justement, hein, qui veulent...
Mais on ne peut pas aller de façon un petit peu plus énergique. Par exemple, là, des bouteilles en plastique de l'eau, bouteilles d'eau en plastique, là, s'il y a quelque chose de complètement idiot, c'est ça. Pourquoi pas arrêter ça? T'sais, un mouvement fort. On arrête les bouteilles en plastique,
Des gestes forts. Des gestes forts.
Puis ouais. on charge une redevance sur l'eau, là. Qui a de l'allure.
On serait, ouais. Ouais, il serait temps.
On continue, là, sur packaging dans tous les domaines.
Ouais. Êtes-vous favorable à ça au Parti québécois, augmenter les redevances sur l'eau,
absolument,
en pensant?
Absolument. Oui.
Pour la peine, là, ou encore?
De façon substantielle. Ouais. Là, on est à quelques demi-cennes par mètre cube d'eau. Nous, on augmente ça à 7 cennes, dont on multiplie par plus un facteur de
Sur les bouteilles d'eau,
honnêtement, notre programme, je ne sais pas ce qu'il dit là-dessus, je vais être bien franc.
D'accord. Mais j'aime mieux que vous me disiez ça, que donniez une réponse de 3 minutes puis qu'on ne soit pas plus avancé. Ouais, Michel, je vous arrête parce qu'il faut aller à notre troisième citoyen, Théo Boucher, 22 ans, étudiant. Allez-y, Théo.
Parfait. Ben déjà, merci de faire ce panel citoyen-là. C'est rare de voir des potentiels élus s'adresser à la population, surtout dans les médias. Donc, merci pour ça. J'aimerais vous parler du projet d'accession à l'indépendance du Parti québécois. On le sait depuis quelques années que c'est pas super à la mode comme projet. Et la stratégie de l'Élysée, ça a été de faire, on va le faire dans un deuxième mandat, le temps que ça reprenne un peu du poids de la bête. Ce qui est intéressant, mais particulier aussi comme stratégie. Et donc, dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en ce moment, vous n'avez pas ce projet-là pour vous démarquer des autres partis. Surtout avec Québec solidaire, qui veut faire ce même projet-là encore plus rapidement que vous. Donc, je pense que vous avez décidé d'aller vers la gauche, un État fort, un peu plus de social-démocratie, et j'applaudis ça. Mais ironiquement, c'est ça que la CAQ et le PLQ ont essayé de faire. Les deux, comme la CAQ avec la Maison des Aînés, par exemple, a décidé d'aller vers la gauche, et le PLQ a copié 3-4 mesures de Québec solidaire en les amoindrissant.
Notamment comme les soins dentaires, oui.
Notamment, ou la gratuité du tarif du transport en commun pour les aînés et les étudiants.
Exact.
Ce qui est quand même particulier de ces deux cas-là, mais on peut juste saluer ça, en tout cas, de mon point de vue. Mais encore une fois, ça fait que vous n'arrivez pas à vous démarquer des autres partis. Donc, pourquoi quelqu'un qui serait indépendantiste ou quelqu'un qui serait à gauche voterait pour le Parti québécois au lieu de, par exemple, Québec solidaire ou d'autres partis qui sont essentiellement pas si différents que ça, à mon point de vue?
C'est une bonne question. Théo, honnêtement, là, vous penchez pour Québec solidaire, hein?
Honnêtement, oui. Parce que c'est un projet qui est plus franc, qui est plus audacieux. Mmh. Et je pense que en ce moment, il y a beaucoup de cynisme. C'est un cliché de le dire. Mais en Occident, en général, les mouvements populaires de contestation, s'ils augmentent, c'est pas pour rien. C'est pas pour le fun. C'est pas juste de la mode. C'est parce que le système actuel, il fonctionne pas.
Okay.
Il y a plein de points de vue différents. Puis je pense que des partis comme Québec solidaire, bien qu'ils soient pas parfaits, répondent à cette demande-là.
Oui, là, vous avez un client, mon cher Tremblay.
Oui, donc alors, vous avez salué ma participation au débat. Moi, je salue votre intérêt puis votre sophistication dans vos questions, dans vos intérêts, franchement, là. Nous, au Parti québécois, vous avez plusieurs questions, là, je ne sais pas laquelle répondre, mais pour ce qui est de la souveraineté, c'est clair qu'on est le seul parti, c'est le train qui part pour l'indépendance, c'est le Parti québécois. Hein? Et puis,
mais qu'est-ce qui vous démarque des autres? Dans le fond, la question qu'ils vous posent, là...
Ce qui nous démarque, c'est assez clair, c'est que le dernier référendum date de 1995, 23 ans, il y a beaucoup d'électeurs qui n'étaient pas nés à cette époque.
Moi, notamment.
Dans votre génération, ouais, et vous notamment. Donc, vous semblez particulièrement intéressé par la chose politique. C'est pas nécessairement tout le monde qui est éveillé à l'importance. Nous, c'est clair qu'on le voit tous les jours. Hein? L'intérêt de signer nous-mêmes nos propres traités. On a tout le monde attend de voir ce qui va arriver à Ottawa, entre Ottawa et Washington, pour la gestion de l'offre, quelque chose de fondamental, l'exception culturelle au Québec. Hein? Donc, signer tous nos traités, c'est fondamental pour les Québécois. Voter toutes nos lois. Hein? On a eu des mauvaises lois dans les dernières années. On n'a pas voulu taxer des produits, les Google, Amazon et compagnie, les Netflix et tout ça. Il faut voter nos propres lois, faire ça, prélever des impôts. Donc ça, c'est la troisième chose. Les traités, les lois, les impôts. Donc la souveraineté est nécessaire pour les Québécois. On veut y aller, mais on veut éduquer les gens. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça.
Okay.
Puis on veut prendre le temps, dans un premier mandat, donner un bon gouvernement aux Québécois. Ça fait 15 ans, on était gouverné par M. Charest, qui était chef du Parti conservateur du Canada, donc un fédéraliste notoire. Monsieur Couillard est un des premiers ministres les plus fédéralistes qu'on a jamais eu. Donc, ça fait 15 ans que c'est le régime qui donne l'exemple aux Québécois. Hein. Les gens, on a beau être désabusés face à la politique, mais les politiques sont des exemples. On les voit aller, ils ont beaucoup de temps sur la place publique. Donc, ces gens-là ont forgé la mentalité. Monsieur Trudeau, la deuxième génération de Trudeau est apparue. Donc, on veut prendre le temps, on veut prendre 4 ans pour bien faire les choses, actualiser des études.
Donc, pas de référendum dans un premier mandat, mais certainement, si vous êtes réélu, un référendum
absolument.
Dans un deuxième mandat.
Absolument.
Une relance, Théo? Courte.
Oui, ben, je trouve que c'est tous des bons points que vous avez dit, mais j'ai l'impression qu'en reléguant la souveraineté en deuxième mandat, ça fait juste déculpabiliser des électeurs qui seraient susceptibles de voter pour la CAQ ou en tourner d'autres vers Québec solidaire, ceux qui sont plus assumés dans cette position-là, ouais. Notamment de l'indépendance ou de la gauche.
Ben, j'aimerais répondre à ça parce que vous avez dit que maintenant, on se démarque pas des autres partis par notre programme social-démocrate de gauche. Je pense que si vous pensez que les mesures, les promesses que font les libéraux en ce moment font d'un parti social-démocrate, honnêtement... Là,
je suis d'accord avec vous sur ce point-là.
Je pense que c'est vraiment pas sérieux là, de les mettre à la même enseigne. La CAQ, c'est la même chose. Hein? L'économiste qu'un des économistes que M. Legault a choisi pour représenter, c'est M. Chassin, qui est à l'Institut économique de Montréal, un think tank de droite, qui est pour la privatisation d'Hydro-Québec, qui est financé par des fondations qui reçoivent de l'argent des frères Koch, hein, du pétrole, des immenses milliardaires du pétrole aux États-Unis. Donc ça, c'est la coalition Avenir Québec, qui n'a aucun programme environnemental, et puis qui vous dit qu'ils vont baisser vos impôts puis améliorer vos services. Ils prennent les gens réellement pour des simplets. Donc, je pense pas que c'est honnête là, de nous mettre sur le même plan à ce niveau-là.
Très bien. On va s'arrêter. Et puis, au retour, on refait un tour de table en commençant avec M. Pelletier. À tout de suite. Ben, de retour avec notre panel citoyen aujourd'hui, c'est le candidat du Parti québécois, le Dr. Éric Tremblay, donc candidat dans Repentigny, qui est avec nous. La semaine prochaine, ce sera au tour du Parti libéral. Nos trois citoyens, Alain, Michel et Théo, donc, sont avec nous. Monsieur Pelletier, allez-y avec votre deuxième question.
Oui, j'ai une question pour vous en ce qui a trait à l'énergie verte. Quelle est votre position pour l'utilisation énergivore des mines de crypto-monnaies en termes des ressources hydroélectriques et quels sont les programmes pour réduire les gaz à effet de serre autres que l'électrification des transports?
Oui.
OK. Mais pour ce qui est des crypto-monnaies...
Ça, c'est les bitcoins, en parlant.
Oui, c'est les bitcoins. C'est quelque chose de très énergivore. Hein? Les gens veulent s'installer ici. Ils savent qu'on a beaucoup d'hydroélectricité, qu'on vend à un bon prix. On est très compétitif sur les marchés internationaux à ce niveau-là. Et puis, on a des surplus à l'occasion. Pas en période de pointe. Hein? Les gens oublient ça parfois, qu'en période de pointe, il nous arrive même d'importer l'électricité l'hiver ici au Québec. Mais bon, on a beaucoup d'énergie, mais ça nous sort pas par les oreilles, contrairement à ce que certains pensent. Donc, il faut regarder ça de façon très attentive. Je pense pas qu'il faut se garrocher, là. Les gens viennent toujours avec l'idée que oh, on va manquer le bateau, là, on va manquer le bateau du Bitcoin. Si c'est une bonne idée, hein, notre énergie est là pour rester, et puis on va être capable de tirer profit de ça de façon rationnelle. Là. Je pense pas qu'il faut paniquer puis chuter là-dedans.
Vous êtes pas sûr que c'est la meilleure façon d'utiliser l'énergie qu'on a présentement.
Ben, c'est peut-être une façon intéressante, mais il faut l'étudier à tête reposée. Là. D'ailleurs, c'est en général l'approche du Parti québécois dans la plupart des dossiers, que ce soit la hausse du salaire minimum ou quoi que ce soit. On veut voir y aller, augmenter les choses, puis d'observer l'impact en même temps, accompagner les gens qui risquent de peut-être subir des contre-coups de ces mesures-là.
Très bien. La deuxième question maintenant de M. Pelletier. C'était sur...
À part l'électrification.
En fait, quels sont les programmes pour réduire les gaz à effet de serre autres que l'électrification des transports?
Voilà. Ben, c'est un gros... Le transport collectif, hein, le grand déblocage, l'électrification, comme vous avez dit... Réduire les gaz à effet de serre, on s'en sert. Ce sont les deux principales sources d'émissions. Hein. C'est le transport, fait qu'on veut électrifier le transport, comme vous dites, puis avoir plus de transports en commun. Le covoiturage, hein, on veut...
Ah oui, vous avez proposé une espèce de tender du covoiturage, mais ça a été critiqué parce que il y a une association qui s'y connaît en la matière qui disait que, mettons que ça avait été fait un peu en amateur, là.
OK.
Mais moi, a priori, je vais vous le dire, a priori, je trouvais ça intéressant, moi, qu'il y ait un système pour faire en sorte que les gens sachent, sur la rue d'à côté, il y en a un qui prend son auto tout seul, puis dans le fond, il va travailler, mon usine, mon travail est sur son chemin, on pourrait voyager ensemble, mais il sait pas, tu le sais pas.
Absolument. Moi, ça m'apparaît une bonne idée. On veut payer les gens qui font ça pour diminuer le nombre de voitures qui sont sur la route. On sait qu'en moyenne, il y a 1,2, 1,3 personnes par véhicule. Là. Hein? Puis c'est ça la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc le covoiturage. Et puis c'est peut-être pas prêt à être mis en branle le 2 octobre, ce programme-là. Mais je pense qu'avec tous les progrès puis la rapidité des progrès avec ces applications-là, je pense qu'on peut y arriver.
Très bien. Michel Lincourt, vous allez nous amener où, vous, avec votre question?
Ben, je vais vous amener sur le plancher de la dette. Au-delà des dettes individuelles, puis on sait qu'individuellement, on est très endetté, mais en plus de ça, les gouvernements sont endettés jusqu'aux yeux. Au Québec, tout simplement, je veux dire, on paye chaque année, le service de la dette, c'est autour de 9 milliards.
9 milliards, c'est pas loin de 10 % du budget, là.
C'est à peu près 10 % du budget. Et il y a comme un secret. Hein, on ne parle pas de la dette. On ne sait pas du tout qui sont nos créanciers. On ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas quels sont les taux d'intérêt qu'on paye là-dessus et à qui on paye les taux d'intérêt, mm-hmm. puis à qui on paye des commissions, puis pourquoi on paye des commissions, etc. Moi, la question que je vous pose, c'est au Parti québécois, et vous, avez-vous une meilleure façon d'emprunter et de gérer cette dette? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'emprunter que la façon actuelle?
Bien, la première chose que je dois vous dire, c'est que les nouvelles sont assez bonnes sur le front de la dette. Hein? La dette du Québec, de l'État québécois, est à 52 % du produit intérieur brut du Québec. C'est pas mal. C'est beaucoup moins que les États-Unis d'Amérique, là, qui sont à 100 % que la France, que la Grande-Bretagne, que plusieurs pays riches. Donc, on a une dette qui est gérable. C'est vrai que c'est pas négligeable. Les intérêts sont substantiels. Quand on parle de 8-9 % du budget de la province, c'est quelque chose. Mais elle est gérable, notre dette. Et puis nous, on a présenté un cadre financier qui la gère comme il faut. On sait que les taux d'intérêt, je suis pas un expert en finance, mais on en a beaucoup au Québec. On a M. Marceau au Parti québécois, on en a plusieurs autres. M. Hossan est un économiste qui s'y connaît bien. Et puis, je suis sûr que M. Letao, il semble avoir fait un bon travail de ce côté-là aussi, là, de gérer la dette, d'obtenir des bons.
Vous, le Fonds des générations, vous le maintenez au Parti québécois?
On le maintient. Hein? Oui.
Vous le maintiez, vous allez continuer à faire des versements dessus pour diminuer la dette progressivement.
On va la contrôler, la dette, on va continuer de le faire. Et puis, on est le seul parti qui le fait sans invoquer des prévisions économiques qui ne sont pas celles qui sont prévues par les experts. Hein? Vous savez que le Parti libéral. Puis la CAQ, on dit, nous autres, on prévoit une croissance économique supérieure à ce que disent les experts.
À ce que dit la vérificatrice générale dans son rapport.
Alors que le Parti québécois s'en est maintenu à ce que disait la VG.
Michel Lincourt.
Donc, on n'essaye pas de faux-fuir. Hein. Puis la dette, juste une dernière chose, on la doit à nous-mêmes à 75 % La dette est envers les Québécois eux-mêmes qui ont souscrit à des obligations et tout ça. Donc, pour vous rassurer.
Oui, mais il y a des intermédiaires. Hein, puis je ne sais pas combien de milliards on donne chaque année à des intermédiaires. Mmh. Mais je vais vous proposer faire une suggestion. Plutôt que d'émettre des obligations sur le marché privé émis par des banques et des institutions financières, pourquoi ne pas demander ce qui a déjà été fait dans le temps à la Banque du Canada d'émettre pour le Québec des obligations à taux d'intérêt zéro? Alors, vous empruntez 10 milliards à la Banque du Canada. Puis vous faites vos travaux, puis vous remettez l'argent.
Puis pourquoi la Banque du Canada nous prêterait à 0 % S'ils nous prêtent à 0 % les autres provinces vont demander la même chose.
Ben oui,
et d'ailleurs, le fédéral lui-même va probablement demander la même chose.
C'est ça l'idée. Avant 1973, c'est ça qui se passait. La voie maritime du Saint-Laurent a été financée de cette façon-là. La route transcanadienne a été financée. Et subitement, en 1973, la politique a changé sans débat public. Hein? Et là, subitement, on emprunte, puis si on regarde la courbe de l'endettement, la courbe, elle monte comme ça, là.
Oui, hein? Oui. Mais là, c'est stabilisé un petit peu, heureusement, là, parce qu'on...
Mais c'est encore... Ce que je veux dire, c'est l'absence de réflexion critique
d'accord.
de la part du Parti québécois ou du Parti libéral ou de tous les élus. Autant à Ottawa qu'à Québec, moi, me laisse...
Perplexe.
Oui.
Michel Lincourt, merci pour la relance. Monsieur Tremblay.
Oui, bien, Monsieur Lincourt a raison. C'est-à-dire qu'il y a une grande déréglementation du secteur financier en général dans les 30 dernières années. Et puis des stratégies comme celles que vous mentionnez d'emprunter à des banques centrales ont été délaissées au profit de se financer sur les marchés.
On sait vous saviez que... ça, vous, avant qu'il vous pose la question? Vous étiez au courant
de ça? Oui, je connais certaines choses quand même, mais je m'intéresse à ça.
OK,
Ça fait que... Mais c'est la façon de faire les choses. Est-ce qu'on va revenir en arrière? C'est dur à dire. Hein? En 1900, vous savez que M. Lévesque a nationalisé l'hydroélectricité dans les années 60. Ce serait un projet difficile à vendre de nos jours. Hein? Il y aurait beaucoup d'opposants, le vent a tourné. Donc, mais ce que vous dites, c'est vrai. Et puis ces choses-là, on va peut-être en revenir à ces choses-là tranquillement pour améliorer notre situation. Mais la bonne nouvelle, c'est que la dette est sous contrôle. Le Parti québécois va continuer à la contrôler et puis qu'on se la doit à nous-mêmes en général.
Très bien. Théo Boucher, deuxième question.
Ben moi, en tant que représentant de la jeunesse à 22 ans, je voulais parler du cours d'éthique et culture religieuse. Et ça, ça fait à peu près 10 ans que c'est dans le débat public depuis 2009, de mémoire, 2008-2009. Et moi, je les ai eus, ces cours-là. Et le Parti québécois et la CAQ aussi, je pense, sont assez réfractaires à ce cours-là parce qu'ils disent que c'est un biais vers la religion et peut-être une propagande multiculturaliste. Mmh. Alors que moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu dans ces cours-là, c'est simplement une description factuelle des religions, que ce soit l'islam, la chrétienté ou peu importe. Et j'ai jamais vu quelque chose de problématique. Alors pourquoi
vous avez pas eu l'impression qu'on essayait de vous endoctriner?
Non, parce que moi, je suis fermement agnostique. J'aime pas particulièrement les religions, au plan personnel, évidemment. Mm-hmm. Et j'ai jamais senti qu'on tentait de m'influencer d'un bord comme de l'autre.
Très bien. Alors, la question, c'est, est-ce que vous allez abolir le cours d'éthique et culture religieuse, c'est ça?
Et si oui, pourquoi?
Ouais. Puis vous avez trouvé que c'était un cours qui était valable, qui vous a aidé à comprendre les autres religions?
Ben, honnêtement, c'est pas le cours qui m'intéresse le plus. Il y aurait probablement des cours de santé publique, de nutrition, d'autres trucs qui pourraient être intéressants davantage, mais je vois pas quelque chose d'assez problématique pour s'y opposer, disons.
Ouais. Moi, j'ai trois enfants. Les trois se sont généralement ennuyés dans ce cours-là aussi. Donc, je vois pas une grande part. La position du Parti québécois, vous savez, on veut inscrire dans la Charte des droits et libertés du Québec le principe de la laïcité de l'État. Donc, on veut être cohérent dans nos politiques. Donc, on veut pas. On considère que c'est pas nécessaire d'enseigner les religions comme ça. Si les gens sont curieux, ils vont explorer ce sujet-là, qui est un sujet valable. La religion fait partie de l'histoire, de l'expérience humaine encore aujourd'hui. Ça va continuer. On va pas priver les gens de ça, mais on veut inscrire un cours de citoyenneté, de participation citoyenne, d'éthique et de culture citoyenne ou quelque chose comme ça. Je me rappelle pas du nom précis du cours, mais c'est ça qu'on veut faire. Puis ça s'inscrit dans notre logique de la laïcisation de l'État et de l'école qu'on veut laïque, dont on veut affirmer le caractère laïque. Donc, vous allez avoir un cours intéressant sur la citoyenneté, l'histoire du Québec, les institutions, la démocratie, le type de suffrage, le rôle du député. On va tout enseigner ça aux jeunes. C'est souvent déficient. On pense que ça vaut la peine, ce cours de civisme-là.
Est-ce que vous seriez prêt, Théo, à troquer le cours d'éthique et culture religieuse pour ce cours de citoyenneté ou ce cours sur la citoyenneté dont vous parle M. Tremblay?
Ben, honnêtement, je trouve qu'un cours de citoyenneté, ça serait très intéressant, mais je trouve que symboliquement, le premier geste qu'on devrait faire, ça serait de retirer le crucifix à l'Assemblée nationale. Je trouve que c'est une honte, c'est un paradoxe qui est ridicule. On peut le mettre dans une autre salle, peu importe où on le met, le crucifix, on peut le garder, mais il ne faut juste pas le mettre dans l'Assemblée nationale. Premier geste pour la laïcité, ça devrait être ça, ça avant tout.
Êtes-vous d'accord avec ça, M. Tremblay?
Oui, moi, j'ai pas de problème avec ça.
Très bien. Bon, ben, c'est tout le temps qu'on avait, encore une fois, mais moi, je trouve ça très instructif. Puis je suis très content que vous ayez tous les trois accepté. Juste une petite question, M. Pelletier.
Oui.
Résident de Repentigny, là, il se présente dans Repentigny, lui-là. Oui. Là. Oui. Vous, avez-vous décidé pour qui vous allez voter dans l'élection?
Ah, écoutez, j'ai quand même une très bonne idée présentement parce que la situation a évolué depuis une semaine.
Oui.
Et je trouve que le débat des chefs, là, ça a été vraiment un point...
Marquant pour vous?
Oui, marquant et décisif.
Mais décisif? Donc, oui, vous savez pour qui vous allez aller voter?
Ben oui.
Vous voulez-vous le garder pour vous ou vous voulez le partager? On est entre nous, là. Vous allez le garder pour vous?
Je vais le garder
Comment vous l'avez trouvé, votre candidat du Parti québécois dans Repentigny?
Ben moi, je l'ai trouvé excellent jusqu'à la date. Là. On s'était rencontrés avant de rentrer en onde. Là.
OK.
Et puis, je lui ai mentionné que M. Tremblay n'est pas un imposteur parce que celui que j'ai vu sur les pancartes à Repentigny, c'est bel et bien lui.
OK, très bien. Monsieur Lincourt, vous votez dans Hochelaga-Maisonneuve.
Ouais.
On me rapporte que vous êtes fédéraliste, mais que vous votez pour Carole Poirier.
Ouais.
Pourquoi vous votez pour Carole Poirier si vous êtes fédéraliste?
Parce que c'est une femme admirable, puis parce que elle est dévouée, elle est intelligente, puis elle s'occupe admirablement bien de son comté, puis elle est intellectuellement honnête, et donc toutes les raisons pour moi de voter pour cette dame.
Elle va être contente de vous entendre.
Ça fait longtemps, là. C'est pas encore aujourd'hui.
Très bien.
Mais aussi, c'est une des rares qui, vous vous souvenez de ça, qui a défendu la laïcité. Et comme je suis toujours d'ailleurs sur le Conseil national du mouvement laïque québécois.
Ah oui, OK.
On a beaucoup.
On s'était vu dans le temps.
Ben, oui,
c'est ça. Vous étiez venu en commission parlementaire.
Ben,
c'est là que je vous avais vu. Michel Lincourt, on me fait des babayes. Il faut vraiment, vraiment conclure. Okay. Merci. Okay. Je suis content, par contre, que vous restiez actif en matière de laïcité. J'ai pas changé d'idée là-dessus. Et Théo, ben, Tu avais prévu voter QS. Est-ce que tu maintiens ton vote pour Québec solidaire?
Oui, ça se maintient, mais je ne suis pas nécessairement représentatif. J'ai tendance à avoir des positions plutôt radicales. Donc,
Oui. Moi, je t'ai trouvé plutôt raisonnable, Théo Boucher. Merci de t'être déplacé. Bravo pour ta réflexion. Alors, Alain, Michel, Théo, bravo, merci. Et merci beaucoup au Dr Éric Tremblay, donc candidat du Parti québécois dans Repentigny. Comme je le fais pour tous les candidats et toutes les candidates, je vous souhaite une très bonne campagne. Et bravo pour votre engagement. On s'arrête.
Merci, M. Tremblay.
Dans un instant, on continue avec l'actualité internationale avec Loïc.